Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le président chilien envisage de modifier la constitution. Sebastián Piñera espère s'offrir un répit en répondant à l'une des revendications de la rue. Quelle modification au juste? Élément de réponse dans ce journal. Démarche contre l'islamophobie en France ce dimanche qui divise entre autres la gauche. Analyse de Stéphane Robert. La face cachée du globe signée Nabil Amel s'attarde entre autres sur l'ouverture d'un corridor entre l'Inde et le Pakistan qui facilite un pèlerinage important pour les Sikhs indiens. Mais tout d'abord, tant de drames et une trouvaille. 100 millions de mines antipersonnelles sont actives à ce jour dans le monde. Ce sont les relevés de l'ONG Handicap International. Des mines et des restes explosifs de guerre localisés dans 60 pays. Localisés, terme inapproprié, il est si dangereux de les repérer, ces charges enfouies dans le sol. Handicap International a toutefois bon espoir de les réduire, ces risques, au moyen d'un drone muni d'une caméra infrarouge. Emmanuel Sauvage, responsable de la réduction de la violence armée à Handicap International, répond à Nadine Epstein.
Récemment, dans le nord du Tchad, à la frontière avec la Libye, on a embarqué une caméra infrarouge à bord d'un drone et de faire une enquête sur le terrain, et nous avons découvert des mines qui étaient enfouies sous le sol. En fait, la révolution, c'est d'être capable de lire ce qu'il y a sous la surface du sol, chose qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à maintenant.
C'est-à-dire que ce procédé permet d'aller plus rapidement et plus profondément dans les dépistages.
Exactement. En termes d'enquête, c'est une révolution, puisqu'on sait exactement où sont positionnées les mines antipersonnelles, mais aussi les mines anti-chars, et ça peut être d'autres restes explosifs de guerre. Donc ça va effectivement améliorer notre productivité, aller beaucoup plus vite, mais quelque chose qui est important, et ça je parle au nom de mes collègues des mineurs, c'est en toute sécurité. À partir du moment où on sait elles sont positionnées, on diminue le risque d'accident. Une fois qu'on a identifié les zones de manière exacte, on peut ou bien les déminer rapidement, si ça n'est pas le cas, en tout cas marquer la zone, protéger les populations qui vivent aux alentours. Donc ça fonctionne dans le désert. Maintenant, il faut aller voir si ça peut fonctionner dans la jungle colombienne ou ailleurs. En tout cas, on développe d'autres procédés, d'autres techniques, notamment avec des radars pénétrants dans le sol. Et bon, pour l'instant, on est au balbutiement de cette innovation. Mais on continue nos recherches.
Le Chili s'est réveillé et son président prétend avoir émis une proposition susceptible de répondre aux urgences sociales et ainsi de venir à bout de la colère qui conduit des centaines de milliers de personnes dans les rues depuis 3 semaines. Sebastián Piñera dit préparer un projet de modification de la Constitution promulgué sous la dictature d'Augusto Pinochet. Le pouvoir promet entre autres une meilleure définition des droits de la personne et de meilleurs mécanismes de participation citoyenne. Décryptage comme promis de Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, sollicité par Adrien Palluet.
Les mesures qui sont annoncées par M. Piñera, en fait, ont été initiées depuis la semaine dernière par une décision d'une commission parlementaire de la Chambre des députés chilienne qui a décidé de demander une réforme de la Constitution qui permette d'engager ce qu'on appelle un processus constituant, c'est-à-dire d'engager un processus vers une assemblée constituante qui aboutisse à une refonte de la Constitution chilienne. On doit comprendre l'importance de ce processus par rapport au fait que la Constitution dans laquelle vit le pays est une Constitution qui avait été négociée dans la transition entre M. Pinochet et l'instauration de la démocratie au Chili. Donc c'est une constitution qui, du point de vue démocratique, est très inachevée et qui avait été conçue de sorte à garantir, à mettre des verrous qui permettaient finalement au pinochetisme de continuer à exister dans le système politique chilien. Mais il faudra voir exactement jusqu'où M. Piñera est prêt à assumer ce processus. Est-ce que ce serait des réformes constitutionnelles, des amendements à la constitution actuelle, ou est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'à un processus constituant intégral qui remettent en cause et qui rediscutent tous les paramètres de la constitution chilienne. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore avec précision, donc il faudra suivre tout ça pour pouvoir avoir une réponse, disons, globale sur cette question. Ce n'est pas tellement un geste positif de la part de M. Piñera, c'est surtout le fait que la traduction, que le mouvement populaire est puissant, qui bénéficie aussi d'une partie d'un appui au sein du Congrès, en particulier de la gauche chilienne, et qu'aujourd'hui, M. Piñera est dans un rapport de force qui l'oblige à concéder cette demande au mouvement. C'est ça que ça veut dire.
En Bolivie, l'opposition adresse une fin de non-recevoir à l'appel au dialogue du président Evo Morales et des manifestants occupent depuis hier le siège de 2 médias d'État à La Paz. Il se présente volontiers comme l'un des remparts contre le nationalisme en Europe. Le président roumain Klaus Iohannis, leader du Parti libéral et candidat à sa réélection ce dimanche, aborde le premier tour de la présidentielle en position de favori, qui plus est face à des sociodémocrates en perte de vitesse et dans le viseur de Bruxelles. Bruxelles qui les accuse d'avoir tenté de museler la justice. Paul Kosygian nous appelle de Bucarest.
Alors qu'elle n'avait pas encore commencé, la campagne est déjà finie, titrait hier une chaîne télé d'infos en continu. Une campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle presque totalement escamotée par une crise gouvernementale qui a duré 2 mois. Largement en tête dans tous les sondages, le président sortant Klaus Iohannis a été le grand arbitre de cette crise qui s'est terminée lundi dernier avec la mise en place d'un gouvernement libéral, un gouvernement entièrement dédié à son programme. Mais l'enjeu de ce premier tour se trouve ailleurs et c'est une vraie révolution car pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, le représentant du Parti social-démocrate, héritier du Parti communiste, risque de ne pas être présent au deuxième tour. Viorica Dăncilă, l'ex-premier ministre, va avoir du mal à décrocher cette place de finaliste. Son parti, le PSD, qui détient le pouvoir législatif depuis 3 ans, ne cesse de baisser dans les sondages. La cause principale est la refonte controversée du système judiciaire, vivement décriée par Bruxelles et par une grande partie des Roumains qui sont sortis dans la rue des mois durant pour défendre l'indépendance des juges. Le déclin du PSD sert surtout à l'USR, l'Union Sauver la Roumanie. Ce nouveau parti, avec de nombreux débutants dans ses rangs, qui milite pour l'assainissement de la classe politique, continue de monter dans les sondages grâce notamment à une communication intelligente via les réseaux sociaux. Son président, Dan Barna, se trouve en ballottage favorable pour une place en finale dans 2 semaines.
Qu'attendre sinon un peu plus de confusion et davantage d'instrumentalisation quand le principal émetteur politique du pays, en l'occurrence le président de la République, dans un entretien à valeur actuelle, redouble d'ambivalence quand il s'agit de mettre en mots ce qui charpente sa politique sur l'immigration. Et ce n'est pas le seul acteur, le seul corps politique à être pris dans les brumes. Les marches de ce dimanche contre l'islamophobie ne font que faire affleurer les embarras et méprises des uns, des autres et des gauches, Stéphane Robert.
Yannick Jadot, pour les écologistes, a fait part de son malaise et de son intention de ne pas participer alors qu'il avait, dans un premier temps, signé l'appel à se mobiliser. François Ruffin, député de la France Insoumise, a tenté de se justifier en expliquant qu'il avait signé la tribune en mangeant des gaufres avec ses enfants. Chez les communistes, le secrétaire national Fabien Roussel s'est dit mal à l'aise avec le mot d'ordre et a refusé de signer le texte. Mais son parti a décidé d'appeler à manifester. Et puis le Parti Socialiste s'est carrément désolidarisé, décidant officiellement de bouder cette marche contre l'islamophobie. C'est dire si la gauche est mal à l'aise avec la manifestation qui doit se dérouler aujourd'hui à Paris. En cause, certains mots employés dans la tribune appelant à se mobiliser. On y parle de projet de loi liberticide, laissant entendre que la France aurait la tentation de mettre en place une politique de discrimination vis-à-vis de la population de confession musulmane. Et puis le terme islamophobie en lui-même pose problème, puisque selon certains, sous couvert de dénoncer des comportements racistes, il interdirait toute critique de la religion musulmane. Enfin, l'un des initiateurs de cet appel à manifester dérange, le Comité contre l'islamophobie en France, une organisation considérée comme étant proche des frères musulmans. À cela s'ajoutent les soupçons de clientélisme politique entretenu par une partie de la gauche avec la communauté musulmane, et puis la contradiction qu'il peut y avoir aux yeux de certains laïcards à défendre la laïcité en soutenant une religion. Pour toutes ces raisons, c'est avec embarras que la gauche a décidé aujourd'hui soit de s'associer à l'événement, soit de le boycotter.
Défilé, marche contre l'islamophobie cet après-midi, entre autres à Paris, Toulouse, Marseille ou encore Avignon. Le nord-est de l'Inde et le Bangladesh viennent d'essuyer un important cyclone. La nuit dernière, des vents de plus de 120 km/h ont frappé ces côtes très peuplées. 2 millions de personnes évacuées. C'est au Bangladesh, pays pauvre et surpeuplé, que les efforts d'évacuation ont été les plus importants. En Inde, Sébastien Farcy de RFI.
Sur les côtes bangladaises, des dizaines de milliers de volontaires ont sillonné les plages et les villages exposés munis de haut-parleurs pour appeler les habitants à se réfugier. En tout, environ 5500 refuges ont permis d'accueillir 2 millions de Bangladais pendant la nuit, alors que les rafales du cyclone Bulbul balayaient les maisons fragiles. Le Bangladesh est l'un des pays les plus menacés par le changement climatique et particulièrement par ce genre d'intempéries, car ces terres se trouvent à quelques mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Pendant la nuit, des vagues de plus de 2 mètres ont ainsi submergé les côtes qui n'ont été arrêtées que par les mangroves de la forêt des Sundarbans. Le nombre de victimes est pour l'instant peu élevé, résultat d'une évacuation réussie ainsi que de la modération des vents. La tempête n'a en effet frappé les côtes qu'à 120 km/h, bien moins rapidement que lors du passage de l'exceptionnel cyclone Sidre, qui avait soufflé à plus de 220 km/h en 2007 et fait plus de 3000 morts.
Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Un sommet à 4 sur la Syrie se tiendra en début décembre à Londres, en marge d'une réunion de l'OTAN. Y participeront les dirigeants turcs, français, allemands et britanniques. L'heure n'est pas pour autant à l'apaisement. Le président Erdogan a prévenu vendredi qu'il continuera son offensive militaire à la frontière jusqu'à ce que tous les Kurdes du mouvement YPG se retirent de cette zone. Et il ajoute que ses troupes n'ont pas l'intention de se retirer tant que d'autres pays étrangers y sont présents. Les dirigeants du Soudan du Sud ne semblent toujours pas prêts à former un gouvernement d'union nationale. Lors de leur rencontre jeudi en Ouganda, le président Salva Kiir et le chef rebelle et ex-premier ministre Riek Machar ont décidé de prolonger de 100 jours la période de pré-transition, faute d'accord sur la question épineuse des frontières entre les régions du pays et sur les conditions de sécurité à assurer pour le retour de Riek Machar à Juba. Abidjan l'a annoncé jeudi, Charles Blé Goudé sera jugé en Côte d'Ivoire pour son rôle présumé dans des actes de torture, d'homicides et de viols. Son parti voit dans cette décision une manœuvre destinée à empêcher son retour au pays. L'ex-chef des Jeunes Patriotes et l'ancien président Laurent Gbagbo sont en liberté conditionnelle aux Pays-Bas où ils ont été acquittés en première instance de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Ils attendent l'examen de l'appel introduit dans ce dossier. Et en Côte d'Ivoire, celui que l'on appelle le général de la rue est considéré par de nombreuses organisations humanitaires comme un des principaux acteurs de la crise dans les années 2000 à 2011. Dans les relations tumultueuses entre l'Inde et le Pakistan, l'ouverture hier du corridor de Kartarpur représente un soulagement pour les centaines de Sikhs indiens qui l'ont d'emblée emprunté. Et pour cause, du côté pakistanais de la frontière se trouve l'un de leurs plus importants lieux de pèlerinage. C'est une correspondance de Com Bastin à New Delhi.
C'est une porte fermée depuis la partition du sous-continent en 1947 qui vient de s'entrouvrir ce samedi 9 novembre. L'Inde et le Pakistan ont inauguré le corridor de Kartarpur. Ce point de passage doit permettre aux adeptes de la religion sikh de se rendre sans visa dans deux lieux saints situés de part et d'autre de la frontière. Pour aboutir à ce couloir, long d'à peine 5 km, il aura fallu 20 ans de discussions bloquées par les accrochages militaires et diplomatiques entre l'Inde et le Pakistan, notamment dans la région du Cachemire. Hier, plus de 500 sikhs ont donc pu se rendre sur la tombe de Guru Nanak, le fondateur de leur religion. Un pèlerinage historique qui coïncidait avec le 550e anniversaire de sa naissance. On compte 20 millions de Sikhs en Inde, contre seulement quelques milliers côté pakistanais. À terme, ce sont jusqu'à 5000 fidèles par jour qui pourront passer par Kartarpur. Les ennemis jurés ne sont pas allés jusqu'à célébrer l'ouverture du corridor côte à côte, les premiers ministres indiens et pakistanais ayant inauguré le point de passage dans leurs pays respectifs. Cependant, Narendra Modi a remercié son homologue pakistanais Imran Khan pour sa coopération et son respect des convictions du peuple indien. Dans une adresse à la nation, il a aussi pointé que cette ouverture tombait le jour de la chute du mur de Berlin. Parmi les premiers à traverser la frontière, on trouve l'ancien premier ministre indien Manmohan Singh, de confession sikh, qui a serré la main du premier ministre pakistanais. L'ex-dirigeant a voulu voir dans cette ouverture timide un début de normalisation des relations indo-pakistanaises.
Conclu en même temps que le traité de paix de 1994, l'accord qui autorisait l'exploitation par des fermiers israéliens de deux sites jordaniens arrive à échéance ce dimanche. Le contrat en question portait sur 25 ans et le roi Abdallah de Jordanie avait, dès le mois d'octobre 2018, notifié à Israël sa volonté de récupérer ses zones agricoles frontalières de respectivement 6 et 4 kilomètres carrés. Les explications de Frédéric Mettezo à Jérusalem.
Avant-hier, les fermiers israéliens qui cultivaient ces terres se sont rendus pour la dernière fois dans leurs champs et leurs vergers, à mi-chemin entre la mer Morte et la mer Rouge. La Jordanie devait prêter à Israël ses quelques hectares disputés, verdoyants et vallonnés pour 25 ans minimum. Mais l'an passé, Abdallah de Jordanie a annoncé qu'il voulait les récupérer et qu'il allait indemniser les agriculteurs israéliens. Bien qu'elles soient fertiles, ces terres n'ont pas d'intérêt intérêt stratégique, non, il s'agit essentiellement de posture. Côté jordanien, les analystes pensent que le roi veut dénoncer l'arrogance du premier ministre Netanyahou et son intransigeance vis-à-vis des Palestiniens. Abdallah, gardien des lieux saints musulmans de Jérusalem, dénonce le contrôle de plus en plus strict de la ville par Israël. Côté israélien, on pense que le roi affaibli cherche à redorer son image auprès de son peuple majoritairement d'origine palestinienne. En début de semaine, les deux pays ont quand même réglé une crise majeure. Deux Jordaniens incarcérés en Israël sans raison connue ont été remis en liberté et l'ambassadeur jordanien est revenu à Tel Aviv. Avec l'Égypte, la Jordanie est le seul pays arabe en paix avec Israël.
À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Hamel. À dimanche prochain, le temps de l'après-midi, nuages humides, pluie soutenue sur le Pays Basque et de fortes pluies sur la Corse. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. À la technique, Jacques Hubert.